nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
On passe une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour. Avec la guerre qui perdure depuis 2001 en Afghanistan, correspond l'avènement du régime des talibans sur ce territoire. Aujourd'hui, en 2009, après une relative accalmie jusqu'en 2004, les tensions se sont accrues, les talibans établissant leur pouvoir à travers un climat de violence et de terreur. Les événements y sont devenus tristement quotidiens. Aujourd'hui, Focus s'intéresse au sort des jeunes filles afghanes et plus particulièrement à leur droit à accéder à l'école. Pour en parler avec nous, deux invités, Elisabeth Play et Yves Kéré. Madame, monsieur, bonjour.
Bonjour.
Merci
bonjour.
D'avoir accepté notre invitation. Elisabeth Play, vous êtes professeure de physique à l'UFM de Champagne-Ardenne à Troyes. Vous formez des professeurs au cours de stages dans des pays étrangers, que ce soit au Chili, en Argentine, en Chine et bien sûr en Afghanistan. Yves Kéré, vous êtes physicien, membre de l'Académie des sciences, très intéressé par l'enseignement des sciences à l'école. Vous vous êtes investi avec vos confrères de l'Académie, Pierre Léna et Georges Charpak, dans la Main à la Pâte, une initiative nationale au début, mais qui s'est ouverte aux frontières par la suite. Ma première question sera la même pour vous deux. Comment vous êtes-vous intéressé au sort de ces jeunes filles en Afghanistan? Peut-être Elisabeth Play pour commencer.
Oui, alors j'ai eu l'occasion de faire plusieurs formations en Afghanistan à destination des enseignants, donc des formations pour initier donc les enseignants et des enseignants que l'on espérait qu'ils deviennent des formateurs d'enseignants à l'enseignement des sciences. Donc à cette occasion, j'ai moi-même conduit quelques séquences de classe dans des écoles de filles.
C'était un programme qui a débuté en 2003-2004, qui s'est poursuivi sur 3 ans.
Oui, ça a démarré en 2004, ça s'est terminé en 2006, et puis il y a eu quelques expériences qui ont suivi jusqu'à actuellement.
C'est le ministère des Affaires étrangères, l'ambassade de France en Afghanistan, qui programme ces formations. Comment ça se passe?
C'était un projet, c'était en fait un fonds d'aide prioritaire, donc avec le ministère des Affaires étrangères, l'Académie des sciences, donc il y avait une convention qui régissait ce programme, et l'IUFM Champagne-Ardenne était partie prenante. Et donc, en fait, on a mené une opération également donc avec la main à la pâte, hein, puisque c'est dans ce cadre-là que je suis intervenue.
Donc, vous êtes intervenue plusieurs fois sur des missions à peu près de 15 jours.
Oui, je suis intervenue... je suis allée 3 fois en Afghanistan pour ces missions. J'ai formé les enseignants essentiellement à Kaboul. Et puis, j'ai eu l'occasion également d'accueillir 2 délégations en France d'enseignants.
À l'UFM,
Champagne-Ardenne, oui.
Yves Kéré, comment la main à la pâte, parce que j'imagine que la main à la pâte s'est intéressée à l'Afghanistan, comment la main à la pâte a atterri en Afghanistan?
La main à la pâte a démarré en France, bien sûr, et puis très rapidement, il se trouve que j'étais à ce moment-là délégué aux relations internationales de l'Académie des sciences, elle a débordé les frontières, c'est-à-dire que d'autres académies avec lesquels j'étais en contact, m'ont dit « mais tiens, c'est intéressant ce que vous faites, qu'est-ce qu'on peut en parler un peu plus ?» Et c'est comme ça que petit à petit, la main à la pâte s'est retrouvée présente, assez massivement d'ailleurs dans certains cas, en Amérique latine, dans pratiquement toute l'Amérique latine, en Chine, en Malaisie, en Europe, dans les pays les plus riches comme la Suède, les États-Unis, le Canada et comme les plus pauvres. Alors, des pays comme la Suède ou les États-Unis avaient leur propre programme, mais nous avons beaucoup collaboré avec eux et c'est tout à fait intéressant. Mais aussi, évidemment, avec des pays très pauvres comme l'Afghanistan et des pays musulmans d'une façon générale. Et nous avons eu donc des relations extrêmement intéressantes avec tous ces pays.
Mais j'imagine des relations aussi difficiles dans le cadre d'un climat tel qu'aujourd'hui.
Naturellement. Il semble bien d'ailleurs que ce que disait Elisabeth Play à l'instant, c'est-à-dire ces séjours qu'elle a pu faire là-bas, ne seraient probablement plus possibles, en tout cas extrêmement difficiles maintenant. Ça évolue dans le temps, malheureusement dans ce cas-là, dans le mauvais sens.
En préparant cette émission, Yves Kéré, vous me disiez que la main à la pâte, ça donnait l'occasion de donner une liberté de parole, une liberté de ton aussi à ses élèves, et qu'il n'y avait rien de politique en soi, mais que ça pouvait gêner un gouvernement ou des gouvernants si on donnait trop de parole aux élèves.
C'est vrai, les enfants sont appelés au cours d'une leçon main à la pâte à s'exprimer, à, non seulement à observer, à manipuler des objets, à faire des expériences, mais aussi à exprimer leurs hypothèses, leurs idées, faire travailler leur imagination. Et c'est bien certain que pour certains régimes, ceci n'est pas très agréable et même tout à fait inadmissible. Plus généralement, l'Afghanistan s'attaque non pas seulement du tout à la main à la pâte, mais bien plus généralement à l'enseignement des filles. C'est beaucoup plus grave que simplement une interdiction éventuelle de la main à la pâte en Afghanistan. C'est l'enseignement aux filles qui est, comme on le sait maintenant, totalement interdit, réprimé, pas dans tout le pays sans doute, mais dans certaines vallées en particulier, et réprimé au sens que les filles sont menacées d'être exécutées si elles vont à l'école.
Alors vous faites référence effectivement à une déclaration des talibans en janvier 2009 qui annonçait que si les jeunes filles n'étaient pas retirées de l'école, elles seraient tout simplement exécutées.
Exécutées, et l'école serait détruite. Et c'est ce qui a été fait, semble-t-il, on n'a pas de renseignements très très précis, mais on sait très bien qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont été détruites depuis 2007 d'ailleurs, ça n'est pas tout à fait récent, dans ces régions qui sont proches du Pakistan, d'ailleurs qui sont plus ou moins à cheval sur la frontière qui est floue dans ces endroits, eh bien on cite par exemple le chiffre de 173 écoles qui ont été détruites depuis 2007. Vous voyez, ce n'est pas du tout des événements parcellaires ou locaux, c'est vraiment très massif. Et des filles qui ont été tuées, d'autres qui ont été défigurées par jets d'acide, enfin, c'est épouvantable.
Revenons sur le terrain en Afghanistan. Elisabeth Play, donc, vous avez formé des professeurs, vous étiez aussi en contact avec ces élèves. Vous me faisiez part de vos joies, mais aussi de vos peines. On va commencer par le positif. Quelles ont été vos surprises, vos agréables surprises sur place?
Les agréables surprises, par exemple, je me souviens d'une conclusion d'une femme à la fin du premier stage, lorsqu'on faisait le bilan, et elle disait « Finalement, ce que j'ai découvert, c'est que les élèves ne sont pas une charrette tirée par des chevaux, ce sont des petits ingénieurs, mais pas très bien éduqués. » Donc, voilà, elle avait tout à fait compris ce que l'on visait à travers ces activités, c'est-à-dire que l'idée, c'était de développer la créativité, et donc on n'était pas du tout dans un enseignement frontal, comme ce qui était en place jusqu'alors en Afghanistan. Alors, parmi les joies, donc j'ai essentiellement fait des séances de formation d'enseignants. La plus grande joie, c'était le fait que l'habitude dans ces pays-là, c'est que ce sont d'abord les hommes qui parlent, surtout les plus anciens. Donc, on avait des groupes mixtes, hein, il y avait autant d'hommes que de femmes.
De professeurs,
parité, de professeurs. Et très rapidement, on les a mis en situation d'investigation, un petit peu à l'image de ce qu'on peut faire dans les classes. Et là, tout le monde avait voix au chapitre et il y avait vraiment des débats très, très intéressants entre les uns et les autres. Et c'était tout à fait intéressant de ce point de vue. Et puis, d'autres joies. J'ai eu aussi l'occasion d'enseigner. Les enseignants étaient un petit peu sceptiques vis-à-vis de la transférabilité de ces pratiques dans leur classe, puisque les effectifs sont élevés, donc il y a un certain nombre de freins. Donc j'ai eu l'occasion de faire quelques séquences de classe, notamment dans des classes de filles. Et donc là, ça a été véritablement une grande joie, de voir qu'au départ, les quelques minutes, les premières minutes, elles étaient très statiques. Et puis très rapidement, je dirais au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, elles se prenaient complètement au jeu. Et très franchement, je ne voyais pas de différence entre des petites Afghanes et des petites Françaises.
Alors, il me semble que vous avez pris justement une photo à cette occasion. Monsieur Kerry en parle souvent. Une photo où l'on voit donc cinq jeunes filles autour d'une expérience de glace en fusion et qui semblent totalement investies dans leur tâche.
Oui, elles étaient effectivement tout à fait... C'est un travail de groupe, donc elle coopérait, elle prenait des notes, elle coopérait, elle manipulait. Effectivement, c'était tout à fait un grand moment.
Alors, il y a aussi des choses un peu moins sympathiques, on va dire des peines. Qu'est-ce qui vous a attristé au cours de ces voyages, au cours de ces rencontres?
Alors, ce qui m'a attristé, ce qui m'attriste toujours d'ailleurs, c'est que certes, on a apporté un ferment. Ces moments de formation d'enseignants, c'était effectivement des moments très très forts. Encore une petite joie, c'est que ces enseignants sont probablement certains maintenant sont devenus des formateurs d'enseignants. Donc là, c'est la fin des vacances d'hiver et je sais que certains de ces enseignants ont formé leurs collègues. Donc ça, c'est aussi une joie.
La transmission.
La transmission, oui. En revanche, il y a eu peu de pratiques dans les classes. Il y a eu peu de pratiques pour diverses raisons, parce que les effectifs sont élevés, il aurait fallu aménager les classes. Il y a le poids de la hiérarchie aussi qui est très fort en Afghanistan.
Et, alors en quoi ça peut jouer dans la mise en place des expériences ou dans l'enseignement différent ?
Ça peut jouer parce que dans la mesure où le bon prof, c'est celui qui transmet le savoir. Et c'est à partir du moment où on fait chercher les élèves... et on développe la créativité, ça n'est pas ce que l'on vise habituellement.
Donc. Le ludique n'est pas mis en avant, ce n'est peut-être pas très valorisant.
Non, le ludique, et puis je dirais le fait que finalement, il y a une sorte de prise de pouvoir des élèves dans la classe, ça, ce n'est pas très bien vu, effectivement.
Aujourd'hui, vous avez encore des contacts avec ces formateurs, enfin ces professeurs qui sont devenus également formateurs, ou ces professeurs, tout simplement ?
Je n'ai plus de contact direct, en tout cas. Je suis un petit peu triste, effectivement, de savoir qu'il n'y a pas de suite à cette action. Je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas de continuité, parce que nous avions établi aussi, c'était donc un partenariat aussi avec le ministère afghan de l'éducation. Donc nous avions obtenu la possibilité d'aménagement, je dirais, des horaires, des classes, et puis éventuellement la possibilité d'accompagnement humain. Mais pour mettre en place ces activités. Malheureusement, ça n'a pas, il aurait fallu une deuxième aide, un deuxième projet qui n'a pas eu lieu.
Mais alors, il me semble, et en préparant cette émission, vous m'expliquiez que même si ce projet était éventuellement reconduit, il serait très difficile de faire venir des civils, des formateurs comme vous, par exemple, à Kaboul, dans ce climat actuel d'insécurité où règne la possibilité d'être pris en otage à chaque seconde.
Très certainement, les choses ont beaucoup évolué depuis 2 ans, depuis 2007. Effectivement, la sécurité n'est plus assurée. Et puis, le climat est maintenant très, très tendu. Donc, je pense que ça serait difficile.
Oui, mais ce qui n'était pas le cas au moment de vos voyages, tout simplement ? Vous pouviez circuler assez librement à Kaboul, par exemple ?
Oui, tout à fait. De 2004 à 2007, on pouvait tout à fait circuler librement dans Kaboul. Même, je vous avoue qu'on a même prolonger un séjour par une petite semaine d'escapade dans la montagne. Et c'était tout à fait agréable parce que les gens sont vraiment très, très accueillants. C'était vraiment aussi un très, très grand moment. Maintenant, je pense que c'est pratiquement impossible.
Alors, sortons des frontières de l'Afghanistan et tournons-nous vers d'autres pays. Il me semble que parmi les pays que vous avez fait ensemble, Yves Kéré et Elisabeth Plé, il y a la Chine. Pourquoi vous êtes-vous rendu en Chine ? Yves Kéré, peut-être, dans le cadre de la Malapad, j'imagine.
Oui, nous avons rencontré en 2001, si je me rappelle bien, une femme très, très remarquable, Madame Wei Yu, qui était à l'époque vice-ministre de l'Éducation en Chine. Et donc une position extrêmement importante, et qui a justement voulu savoir ce qu'on faisait en France. Je l'ai emmenée visiter une école où on faisait en banlieue sud la main à la pâte, et elle a été conquise. Alors ceci pour des raisons qu'elle m'a expliquées petit à petit, et qui sont les suivantes au fond. L'enseignement joue alors en Chine un rôle tout à fait fort. Il n'y a pas du tout ces problèmes garçons-filles dont nous venons de parler pour l'Afghanistan, absolument pas. Mais le problème est le suivant, c'est que l'enseignement est resté, semble-t-il, très confucéen. C'est elle-même qui me l'a dit, c'est-à-dire le maître sait, l'enfant ne sait pas, ce qui est tout à fait vrai, bien sûr, mais l'acte d'éducation unique, non pas seulement principal, mais unique, c'est quelque chose qui va de la bouche de l'enseignant à l'oreille de l'enfant. Encore une fois, c'est très bien, mais ça se limite à ça. L'enfant écrit, on voit bien dans les classes sont nombreuses d'ailleurs aussi, un peu comme en Afghanistan, 50, 60 enfants dans la classe, mais les enfants, il règne un silence absolu et les enfants écrivent ce que le maître dicte. Alors, pourquoi pas ? Ceci est tout à fait nécessaire dans bien des cas, mais cette femme, je reviens à elle, a été frappée par cette liberté d'expression, cet appel à l'imagination des enfants que nous faisions dans la main à la pâte, ces expériences faites avec leurs mains, avec leur intelligence aussi. Et la joie qui régnait dans les classes, elle a été très frappée. Elle a dit « je voudrais la main à la pâte en Chine ». Alors les Chinois l'ont adoptée. Ils ont appelé ça « learning by doing », c'est-à-dire apprendre en faisant, faire de la science, pas seulement l'apprendre, mais la faire. Et alors là, en Chine, on peut dire que la main à la pâte s'est répandue, que notre, contrairement à ce qu'évoquait à l'instant Elisabeth Play, où les relations se sont distendues, pour ne pas dire arrêtées, avec l'Afghanistan, là, contrairement à cela, en Chine, nous avons une relation très forte qui se manifeste par des échanges constants, par des colloques qui ont lieu alternativement en Chine et en France. Et nous sommes arrivés à un stade où nous recevons, à bien des égards, autant de la Chine que nous leur donnons. Parce qu'ils ont aménagé la main à la pâte au goût chinois, ils font des expériences auxquelles on n'avait pas pensé, et naturellement réciproquement. Donc c'est tout à fait passionnant d'avoir cette relation avec les écoles chinoises.
Donc la main à la pâte, hormis peut-être l'Afghanistan, et encore, ça reste un immense succès qui se répand encore toujours plus dans les pays.
Je ne dirais certainement pas un immense succès, parce qu'il y a des difficultés, d'ailleurs à commencer par la France. Mm-hmm. La France a réinstitué un enseignement des sciences qui avait quasiment disparu il y a une douzaine d'années. Donc il y a un petit succès, mais il y a aussi un échec dans la mesure où il y a encore beaucoup d'écoles, même en France, qui ne font pas encore de sciences. Et en Chine, c'est pareil, c'est pas du tout un immense succès, mais c'est un début, c'est un germe que nous lançons et que cette femme, Wei Yu, qui travaille encore énormément là-bas, lance en Chine. Elle a commencé par les grandes villes de l'Est, Shanghai, Nankin, Pékin, etc. Et maintenant, elle irradie, si je peux dire, des villes plus petites, et elles ne sont jamais très petites en Chine, mais enfin des villes plus lointaines vers l'Ouest. Et c'est vrai que ce « learning by doing » se répand en Chine, mais ce n'est pas un immense succès, non, c'est un travail long, il faut sans doute une génération pour modifier l'enseignement des sciences dans un pays.
D'accord, on sent vos propos modérés. Elisabeth Play, vous poursuivez, donc l'Afghanistan s'est arrêté, vous poursuivez vos formations, vous partez je crois prochainement au Chili, c'est toujours dans le même cadre que ce que vous avez fait pour l'Afghanistan, il s'agit de former des professeurs.
Oui, alors là, c'est une opération un peu originale dans la mesure où nous sommes en train de co-élaborer des modules de formation. Donc, on a eu l'occasion d'assurer quelques formations auprès de moniteurs et nous élaborons des séquences de classe ensemble. Donc, je pars effectivement pour une dernière phase de travail, c'est-à-dire que les moniteurs ont élaboré ces séquences. On a eu des échanges pendant l'intersession. Et là, on doit mettre la touche finale à ces modules avant qu'ils ne soient diffusés auprès des enseignants.
À travers votre expérience, on a l'impression que la France semble assez présente dans la formation des professeurs, notamment dans les pays étrangers. C'est une image qui s'avère vraie ou pas spécialement ?
Oui, dans ce domaine-là, dans le domaine des sciences, et dans le domaine de cette dynamique main à la pâte. Mais en fait, cette dynamique d'enseignement des sciences du type investigation, c'est une dynamique mondiale maintenant. Donc tous les pays se retrouvent un peu dans cette même problématique. C'est vrai que la France a une petite longueur d'avance. On a une bonne structure actuellement, grâce en particulier à un site très très important et puis à tout un réseau qui s'est créé sur le territoire. Donc ça crée des échanges internationaux tout à fait féconds.
Eh bien, je vous remercie, Elisabeth Play. Bon voyage alors.
Merci.
Merci Yves Quéré. Et merci. Je l'espère à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.